Pour l'économie, l'entreprise est un nœud de contrat hiérarchique. Dans ce chapitre, nous allons traiter deux questions. La première est celle de la nature de ces contrats qui lient tous les employés et les partenaires d'une entreprise à sa direction et qui d'ailleurs lient aussi cette direction à ses actionnaires. La seconde question vient du fait que l'entreprise est le lieu du partage de la valeur ajoutée entre les revenus du travail et les revenus du capital après ponction de l'État, comme le montre la comptabilité d'entreprise. Ce partage de la valeur ajoutée dans les entreprises a des conséquences au niveau d'ensemble, des conséquences que l'on peut qualifier de macroéconomiques. Le second point constituera donc une introduction à la macroéconomie. Commençons par le contrat de travail. Dans un contrat de travail salarié, la direction, on dira le principal dans le jargon de la théorie des contrats, demande à l'employé, l'agent, de mettre ses compétences à la disposition de l'entreprise pendant un certain temps, pour faire un certain type de tâches qui sont précisées en termes généraux. Vous êtes embauché comme ingénieur informaticien ou comme ouvrier à la chaîne. Mais sans précision excessive, parce que justement, la fonction de la hiérarchie est d'affecter vos compétences à des tâches qui peuvent changer. C'est son rôle de coordination. Le contrat de travail suppose la libre disposition de vos compétences dans un cadre prédéterminés et contre certaines rémunérations, fixes, variables, etc. Un contrat de travail est nécessairement passé dans une situation d'incomplétude et d'asymétrie d'information. Tout d'abord, aucun contrat n'est complet, aucun contrat ne peut prévoir tous les cas et l'advenu de circonstances imprévues peut mettre soit l'employeur, soit l'employé en situation de force. De plus, l'employeur ne peut pas savoir quelles sont exactement les compétences de cet employé, malgré ses diplômes qu'on lui demande de montrer et malgré son expérience professionnelle passée, dont on lui demande d'apporter des témoignages. Et l'employeur n'est pas non plus capable de deviner l'enthousiasme avec lequel il va exercer ses compétences. On a là une profonde asymétrie d'information. L'agent en sait beaucoup plus que le principal sur ses compétences et sur son désir de s'aligner sur les objectifs du principal. Le principal va devoir inventer un contrat qui soit à la fois contraignant, vous devez faire cela comme cela, et incitatif. Et si vous le faites encore mieux, eh bien vous allez avoir un avantage monétaire ou autre. Nous allons partager. Une branche de l'économie, la théorie des contrats, dans laquelle s'est illustré Jean Tirole, essaie de concevoir le contrat optimal. On voit bien que ce n'est pas le même pour un ouvrier à la chaîne et pour le dirigeant de l'entreprise vis-à-vis de ses actionnaires. L'ouvrier à la chaîne, on peut contrôler l'intensité de son travail par la vitesse de la chaîne, tout simplement. S'il ne travaille pas assez vite, on l'élimine de la chaîne. Si les ingénieurs pensent qu'ils pourraient travailler plus vite, on essaye d'augmenter progressivement la vitesse de la chaîne pour tester la limite des ouvriers du maillon faible. On enlève le maillon faible, on en met un autre et on continue comme cela. C'est l'augmentation des cadences infernales. C'est un contrôle un peu bestial. Il n'est point besoin de contrat incitatif dans ce cas. S'il y a des primes, elles sont collectives et portent plutôt sur la qualité, plus difficile à contrôler que la vitesse de la chaîne. Quant au président, ce qui intéresse ses actionnaires est qu'il augmente la valeur des actions de l'entreprise. On va lui donner par conséquent des incitations sous la forme de stock options, d'options d'achat d'actions. Les actionnaires de l'entreprise autorisent l'entreprise à racheter ses actions à 100. Et à donner une option d'achat de ses actions à 100 au président. On va lui dire, dans 3 ans, vous avez le droit de revendre ces actions et de payer alors leur prix d'achat de 100. Si vous les revendez à 130, vous allez empocher la différence de 30 par action. Vous êtes directement intéressé à ce que le prix des actions monte. C'est ce que veulent les actionnaires. Il est vrai que cela pourrait vous inciter aussi à faire tout votre possible pour augmenter la valeur de l'action en 3 ans, puis à prendre votre pactole et à vous en aller. C'est ce qu'on appelle l'aléa moral. C'est le risque que prennent les actionnaires. Les contrats sont donc contraignants et incitatifs, d'autant plus incitatifs que le degré de compétence de l'agent et son degré d'implication sont importants et mal connus du principal. Cela vaut pour les employés, mais aussi pour toutes les autres parties prenantes de l'entreprise, dont les relations avec elles sont régies par des contrats, éventuellement implicites. Les fournisseurs, les distributeurs, les voisins. Qu'en est-il à l'intérieur de l'entreprise du partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail? C'est notre seconde question. Qu'est-ce qui détermine la part de la valeur ajoutée qui va à la rémunération directe et indirecte du travail et celle qui va à la rémunération du capital? Sur cette question cruciale, et qui, rappelons-le, était celle des classiques, qui avaient ajouté une distinction entre rente foncière et profit, plusieurs modèles économiques proposent des analyses différentes de ce partage et de ses conséquences macroéconomiques. Tout d'abord, le modèle néoclassique, qui pose que tout s'équilibre sur les marchés du travail et du capital, chacun étant rémunéré à sa productivité marginale, sans chômage ni capital inemployé. Dans ce modèle, toute entreprise se demande, avec un employé de plus, quel serait mon cash flow supplémentaire? Ce cash flow supplémentaire, je suis prêt à le payer à cet employé. Il suffit que j'en garde un peu. Toute entreprise embauche donc jusqu'à ce que la productivité marginale du dernier embauché soit égale à son cash flow marginal. Et elle le paye à ce prix-là. Cela suppose évidemment que toute entreprise soit capable de mesurer la productivité marginale de tous ses employés, y compris son dirigeant. Pour le capital, le raisonnement est identique. Si j'achète une machine de plus, combien cela produit-il de cash flow supplémentaire? Ce sera la rémunération de l'investissement de cette machine. Si une innovation technique améliore la productivité des machines, dans un premier temps, la productivité du capital va augmenter, donc sa rémunération, ce qui attire plus de capital et donc réduit les rendements, car les rendements du capital sont supposés décroissants au fur et à mesure que l'innovation se diffuse. Dans le second modèle d'inspiration keynésienne, les marchés sont très imparfaits. Par exemple, le salaire nominal ne peut pas baisser, même en cas de chômage. Si la productivité du travail baisse, les salaires restent ce qu'ils sont. Si les salaires sont rigides et que le marché du travail est imparfait, il existe une certaine indétermination dans le partage de la valeur ajoutée. Cela va dépendre des réglementations, comme l'existence ou pas d'un salaire minimum, et des rapports de force entre employeurs et employés. S'il y a beaucoup de chômage, par exemple, les employés sont plus faibles et les salaires plus bas. Des salaires bas dépriment la consommation et donc la croissance. En effet, les salariés consacrent une plus grande part de leurs revenus à la consommation que ceux qui reçoivent des revenus du capital, qui sont généralement beaucoup plus riches. Cela, c'est-à-dire ces imperfections de marché et les déséquilibres qu'ils entraînent, peut justifier une intervention de l'État sur le partage de la valeur ajoutée, par exemple, par un salaire minimum, ou de remplacer la consommation privée défaillante par une consommation publique. Nous le verrons au tome sur l'État. D'autres modèles plus radicaux encore ont été développés, en particulier au cours des années 60, dans la controverse des deux Cambridge. Les Cambridgiens britanniques dénoncent une circularité dans le raisonnement néoclassique des Cambridgiens américains. Puisque le calcul de la productivité marginale du capital ne peut se faire qu'en utilisant des prix pour agréger un capital très hétérogène, telle machine avec telle autre. Il faut déjà avoir fixé le rapport des rémunérations entre capital et travail, et donc il faut déjà avoir apporté la réponse à la question qu'on prétend se poser. S'inspirant en ceci des classiques et de Marx, les Cambridgiens britanniques disent donc que le partage de la valeur ajoutée et donc la rémunération relative du capital et du travail sont en vérité arbitraires ou plutôt ne dépendent que du rapport de force, voire des réglementations. Voilà au moins deux visions assez différentes de la façon dont la valeur ajoutée se partage dans l'entreprise et de ses effets macroéconomiques d'ensemble. Où est la réalité ? Évidemment, la réalité est entre les deux. Les marchés ne sont pas parfaits. Il y a des imperfections plus ou moins fortes. L'économie peut s'éloigner durablement de l'équilibre des marchés parfaits et il peut y avoir, par exemple, un chômage involontaire. On verra donc au tome 5 ce que l'État peut faire dans une vision keynésienne pour remédier à ce type de chômage.